retentissement également sur la qualité de vie. Quand on prend des études de qualité de vie dans la population des patients qui ont un syndrome des jambes sans repos en comparaison avec la population générale, vous voyez bien sur le graphique que la qualité de vie des patients est nettement altérée, notamment sur l'énergie et la vitalité. C'est les éléments de qualité de vie qui sont les plus détériorés. Les patients se plaignent et on constate des troubles de la cognition, de l'attention, éventuellement une hyperactivité motrice chez les enfants, notamment. Il peut y avoir des troubles de l'humeur et de l'anxiété, en sachant qu'il y a des comorbidités également avec les troubles de l'humeur et de l'anxiété, des relations bidirectionnelles. À la fois, le syndrome des jambes sans repos augmente le risque de dépression, et dans l'autre sens, quand on a des troubles de l'humeur, on va être plus sensible aux symptômes du syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos a également des répercussions sur les activités quotidiennes, avec des conséquences sociales. On a probablement tous quelques patients qui sont en arrêt prolongé, qui n'ont pas pu reprendre parce qu'ils ont une telle détérioration de leur qualité de sommeil que ça devient impossible de pouvoir concilier un travail avec ces difficultés de santé. Donc des conséquences sociales, professionnelles ou scolaires, notamment pour les enfants. Donc, s'il s'agit d'une pathologie fréquente avec un retentissement significatif, on arrive au fond de la question d'aujourd'hui, de mon sujet. Est-ce que le syndrome des jambes sans repos, c'est dans la tête? Est-ce qu'il s'agit d'une maladie, donc on a vu que ce n'était pas une maladie récente, mais est-ce que c'est une maladie qui n'a pas de substrat biologique? Eh bien, si, il y a un substrat biologique et notamment des éléments génétiques. Puisque 20% des patients ayant un syndrome des jambes sans repos ont un apparenté du premier degré qui est atteint. Donc un contexte génétique fort, et quand on fait des études d'association génomique, on met en évidence des variants génétiques avec des variations spécifiques associées à une prévalence plus importante de syndrome des jambes sans repos. Et lorsqu'on va regarder la fonction de certains de ces gènes, il est mis en évidence un rôle de ces gènes dans le métabolisme du fer. Pourquoi parle-t-on du métabolisme du fer dans le syndrome des jambes sans repos? Parce qu'on a constaté assez vite que le fer, dès les travaux de Karl-Axel Ekbom, on a constaté assez vite que le fer avait un rôle important dans le syndrome des jambes sans repos. Et plutôt sous forme de réserve en fer, pas le fer sérique, mais plutôt les réserves en fer, la ferritinémie. On met en évidence que plus la ferritinémie est basse, plus il y a une sévérité, enfin plus la sévérité du syndrome des jambes sans repos est significative, et la prévalence du syndrome des jambes sans repos augmente nettement en cas d'anémie avec carence en fer. Donc le fer joue un rôle important dans la survenue de la maladie, et de la même manière, ça jouera un rôle également dans le traitement de la maladie avec une amélioration, voire une résolution pour certains patients des symptômes avec la correction des réserves en fer. Il ne s'agit pas tant du fer, des réserves en fer globales, que plutôt probablement les réserves en fer du compartiment du système nerveux central. Quand on fait des dosages dans le liquide cérébrospinal ou céphalorachidien, on voit une diminution des taux de fer, donc probablement un rôle sur le transport du fer jusqu'au système nerveux central. Sur des études en imagerie, on met en évidence un déficit régional en fer dans certains noyaux gris centraux, en particulier la substance noire, la même substance qui est impliquée dans la maladie de Parkinson, le putamen et le noyau codé, donc avec des hypothèses de transport anormal du fer. Le fer joue un rôle dans la modulation de la transmission dopaminergique. Il s'agit d'un cofacteur de la dopamine, et ce qui nous fait la transition avec le rôle de la dopamine. Donc le syndrome des jambes sans repos est lié à des anomalies du fonctionnement de la dopamine. Comment s'en est rendu compte? Eh bien, on sait qu'il y a une réponse au traitement dopaminergique chez la majorité des patients, chez 60 à 75% des patients ont une amélioration avec l'utilisation des traitements dopaminergiques qui ont l'autorisation de mise sur le marché notamment, et que les antidopamines vont aggraver le syndrome des jambes sans repos, en particulier les neuroleptiques, qui peuvent vraiment faire flamber un syndrome des jambes sans repos. Dans le cas des anesthésies, parfois, des neuroleptiques sont utilisés et ça peut créer un syndrome des jambes sans repos. Donc la dopamine joue un rôle important. Les mécanismes précis de l'implication de la dopamine sont inconnus. On sait qu'il n'y a pas de perte de neurones à dopamine, comme dans la maladie de Parkinson. La physiopathologie est très différente de la maladie de Parkinson, et le fait d'avoir un syndrome des jambes sans repos n'augmente pas le risque de maladie de Parkinson par la suite. Mais il existe une augmentation de la production de la dopamine et donc il pourrait y avoir un renouvellement plus rapide. On met en évidence un déficit en transporteur de la dopamine, le DAT, et sous une certaine forme au niveau du striatum, donc des noyaux gris centraux. Plusieurs hypothèses sont évoquées pour le rôle de la dopamine dans le syndrome des jambes sans repos, soit une augmentation de la synthèse de la dopamine qui entraînerait alors une diminution de la sensibilité des récepteurs à la dopamine, soit une diminution de la recapture de la dopamine au niveau de la synapse, ou soit une diminution des récepteurs à la dopamine postsynaptique. Donc les mécanismes précis de l'implication de la dopamine sont encore mal connus. Il reste beaucoup de recherches à faire pour progresser là-dedans. Et cela va impacter notre prise en charge thérapeutique. Ici, vous avez un agenda de sommeil d'une patiente de 70 ans qui a un syndrome des jambes sans repos, invalidant. Elle se plaint d'une fatigue au cours de la journée, d'une envie de dormir, d'une fatigue le soir. Elle a un sommeil fragmenté de mauvaise qualité. Et quand on lui demande pourquoi, elle m'incrimine systématiquement le syndrome des jambes sans repos. Ici, vous avez une polysomnographie d'un monsieur de 50 ans qui a des difficultés à l'endormissement principalement, avec un sommeil de nuit un peu léger en début de nuit surtout. Et puis des mouvements périodiques nocturnes qui se répartissent clairement sur le début de nuit et qui sont beaucoup moins importants sur la fin de nuit. Donc vraiment cette organisation circadienne des mouvements périodiques nocturnes. Et ici, vous avez un enfant qui a un syndrome des jambes sans repos qui a été enregistré et qui va passer 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure en début de nuit à se masser les jambes, à chercher sa position, à bouger, voire à se lever pour marcher. Donc vous voyez que tous les âges de la maladie peuvent être représentés et que les symptômes sont à la fois nocturnes mais à la fois diurnes, parce que quand vous avez un sommeil de nuit perturbé, il y a des répercussions dans la journée. Donc nous avons nos 5 critères diagnostiques, les 4 critères positifs et le cinquième d'élimination des diagnostics différentiels. Les critères de support que j'ai abordés rapidement, les mouvements périodiques nocturnes, les antécédents familiaux, la réponse au traitement dopaminergique, l'absence de somnolence diurne excessive, le retentissement au quotidien sur la qualité du sommeil, sur la qualité de vie, la fréquence qui est importante, ce n'est pas une maladie rare, la sévérité avec une prévalence qui dépend de la sévérité avec des gens qui ont des formes très sévères et très invalidantes. La physiopathologie implique des éléments génétiques, on recherchera systématiquement les antécédents familiaux, les modifications du métabolisme du fer et du métabolisme de la dopamine qui vont avoir des implications thérapeutiques. Je vous remercie de votre attention.